Je vois 15 personnes ici dans mon crédit. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, oui. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 17, 18, 19. Il y en a quelques-uns qui n'ont pas réussi à ouvrir la fenêtre du crédit ou qui l'ont déjà fermée. Ok. Et donc, je me propose de commencer. Ok? Donc, donc, je vais vous parler de la créativité en classe et en particulier donc du rôle des fonctions là-dedans. Et pour ça, donc les fonctions et la créativité en classe, mais en fait, je vais m'appuyer sur la popularisation des mathématiques pour développer l'aspect créatif et en particulier l'aspect créatif autour des fonctions, c'est-à-dire les fonctions et la créativité hors la classe. Okay, à la classe de mathématiques. Donc je vais tout d'abord revenir sur la notion de créativité. Je ne sais pas s'il y avait de nombreux, je crois que Fabrice était là à Strasbourg et Anne-Marie aussi. Donc je vais passer quelques choses qu'ils ont déjà vues, mais la plupart sera quand même différente. Non, là, normalement, le texte devrait changer. Si vous suivez le Prezi, normalement, vous voyez que ça change. Vous pouvez faire des petits smileys, oui, je suis content, ou non, je suis pas content, pour dire si ça marche ou si ça marche pas. Ou alors, simplement dire dans le chat, oui, ça fonctionne. Là, on ne voit plus le titre. Et on t'entend correctement. Faites-moi des petits retours comme ça, s'il vous plaît, parce que là, je ne peux pas tellement savoir si ça fonctionne. Donc, ce que je vais vous présenter, très bien, merci. Donc, ce que je vais vous présenter, donc ça a été fait en collaboration avec mon thésard Pedro Lealdino Filho, à l'IREM de Lyon. L'IREM, pour ceux qui seraient tombés de la Lune récemment, eh bien, c'est l'Institut de recherche sur l'enseignement des mathématiques. Et donc, il y a 28 tels IREM en France. Donc, chaque grande université en a un. Et on devrait en avoir un. Et dans cet IREM, eh bien, ces piliers derrière sont des professeurs de mathématiques et des chercheurs en enseignement des mathématiques. La page ne change pas. Donc, là, normalement, vous devriez voir marqué IREM. Est-ce que vous voyez marqué IREM ou est-ce que vous voyez autre chose? Donc, l'Institut de recherche sur l'enseignement des mathématiques, il y a deux associations qui sont derrière, qui sont, mais ça marche pas pour Najib. Ah, c'est bien dommage. Il faut copier-coller, là. Une des URL, vous avez par exemple celle-là. L'association des professeurs de mathématiques de l'enseignement public, donc surtout des enseignants du secondaire de mathématiques, mais pas seulement, et puis l'association pour la recherche en didactique des mathématiques. Donc bien entendu, il y a des adhérents de ces associations qui ne participent pas aux IREM et vice-versa, des personnes, des formateurs IREM qui ne sont ni dans la RDM ni à la PMEP, mais il y a quand même de forts contacts avec ces deux associations. Moi, je suis formateur dans une école supérieure du professorat et d'éducation, ESP, donc ce qui s'appelait avant les IUFM et avant les écoles normales, et je participe, donc ça c'est mon travail de formateur, et je participe aussi à un laboratoire de recherche sciences, société, historicité, éducation et pratique, S2HEP, où il y a d'autres personnes que des matheux qui s'intéressent à l'enseignement des sciences. Voilà, donc ça c'est pour donner le contexte dans lequel nous sommes, et dans lequel ce petit séminaire prend s'ancre. Et ça se passe à Lyon. Donc à Lyon, il y a une grande université, qui s'appelle l'Université de Lyon, et puis l'Université Claude-Bernard Lyon 1, à laquelle je participe, et il y a d'autres partenaires de l'enseignement des mathématiques et la recherche sur l'enseignement des mathématiques, que sont par exemple l'École normale supérieure de Lyon et l'IFE, l'Institut français d'éducation. Mais je participe aussi à des projets avec l'INSA, l'Institut national des sciences appliquées. Enfin voilà, donc, nous nous retrouvons dans quelque chose de typiquement lyonnais, hein, puisque ça, le fait d'avoir différents appuis institutionnels, tous les IREM en ont. Mais ce qu'on a de particulier à Lyon, c'est la Maison des mathématiques et de l'informatique qui s'intéresse à la diffusion des mathématiques et donc et finance et des projets autour de des mathématiques hors la classe. En particulier, enfin, bon, donc je participe aussi à un projet européen, le projet MC², donc c'est qui s'intéresse à la créativité en mathématiques. Donc il y aura de la créativité, il y aura de la popularisation des mathématiques. Et il y aura aussi des mathématiques hors la classe. Le dispositif hors la classe que je trouve le plus efficace, et je vous invite à y jeter un œil, et pourquoi pas dans la situation dans laquelle vous êtes, et bien tenter de mettre en place un projet Matangine. Donc David Ravelot nous dit que il participe à un atelier Matangine et je l'en félicite parce que c'est vraiment des endroits où on peut casser les fausses conceptions qu'on peut avoir sur qu'est-ce que c'est que les mathématiques et à quoi ça sert et sortir du débat habituel autour des mathématiques. Et je vais y revenir et prendre des exemples d'ateliers Matangine ou presque qui sont vraiment très intéressants. Alors donc derrière derrière l'enseignement des mathématiques de manière générale, il y a quand même cette question qu'il faut se poser. Qu'est-ce que la mathématique? Et là je m'appuie sur une conférence par Wolfram. Conrad Wolfram, qui est un de mes héros, qui présentait qu'est-ce que la mathématique, et donc en quatre points. La mathématique, elle nous aide à poser la bonne question. Quand on regarde un phénomène et qu'on essaye de comprendre mathématiquement un phénomène, eh bien la mathématique nous aide à poser la bonne question. Poser les bonnes questions qui a comment voir un phénomène avec un œil scientifique. Eh bien, la mathématique nous sert à ça. En particulier en identifiant les grandeurs pertinentes, en posant des définitions. C'est pas tout de les identifier, mais il faut aussi leur donner un nom et préciser exactement ce qu'on entend par là. Être d'accord les uns avec les autres quand on parle de ce phénomène, des mots qu'on utilise. Une fois qu'on a fait ça, on essaye de relier entre eux ces choses importantes, c'est-à-dire, et les mathématiques nous aident à formuler mathématiquement le réel en comprenant les relations qu'il peut y avoir entre les choses importantes quand on modélise un phénomène. Troisièmement seulement, calculer. Et dans l'enseignement des mathématiques, en général, on ne s'intéresse que à ce troisième point, et c'est ce que le grand public comprend des mathématiques. Les mathématiques, ça sert à calculer. Mais ça sert à beaucoup plus que ça. La mathématique, ça sert à comprendre le réel et le modéliser et être capable d'en parler, de parler du réel. Ça n'est pas le réel, mais ça nous permet de parler du réel d'une manière qui peut être transmise. Voilà. Et puis, quatrième point, vérifier l'adéquation à la réalité, c'est-à-dire que quand on fait un modèle et quand on fait des calculs, ces calculs peuvent être très très faux et on a le droit de se tromper en mathématiques, on peut faire des calculs qui sont faux, simplement il faut s'en rendre compte. Et donc, un modèle, il peut être très faux, et pourtant être intéressant. Ça, c'est quand même quelque chose de très typique des mathématiques, et que peut-être les économistes, par exemple, n'ont pas bien compris, parce que on a des modèles qui parlent de la réalité, mais qui ne sont pas la réalité, et vérifier l'adéquation d'un modèle à la réalité, c'est quand même quelque chose d'important si on veut parler de la mathématique, de la réalité. Donc, ce qu'il faut retenir de ça, c'est que la mathématique, c'est beaucoup plus que le calcul, et en général, pourtant, eh bien, on s'arrête simplement à ce troisième point du calcul. Donc, pour mettre les fonctions, pour donner du sens aux fonctions, eh bien, il faut pas seulement calculer avec des fonctions. Il faut aussi que les fonctions nous aident à poser des bonnes questions, nous aident à formuler mathématiquement le réel. Ok, il faut calculer avec les fonctions, mais ensuite, après, il faut aussi voir si ce qu'on a fait nous rapproche d'une meilleure compréhension de la réalité ou pas. Ok. Donc, par exemple, la réalité, ça peut être ce tableau de Vacciarelli, que les gens en France ont vu beaucoup dans les années 80, 90, au dos des grands panneaux publicitaires. On avait beaucoup de Vacciarelli, comme ça. Qu'est-ce qu'on voit là? Eh bien, on voit des choses très intéressantes. On voit des disques, et puis aussi des disques un peu aplatis. En fait, bon, c'est des ellipses. Et on voit ça, ces disques, ils ne sont pas mis comme ça au hasard. Ils ont l'air d'être à peu près alignés, mais en fait, pas tout à fait, parce que leur taille, elle dépend de leur position. Enfin, bref, on peut regarder cette réalité-là. J'en prendrai d'autres exemples, hein. Regardez cette réalité qui est une œuvre d'un artiste du mouvement Op Art pour Optical Art. Donc, Op Art, Optical Art. Je peux peut-être taper ça dans le. Donc, c'est Vacciarelli. Au fait, dans ma présentation, il y a des. Ah, voilà, il y a des URL un peu partout. Hein, là, j'y vais un petit peu vite, mais si vous voulez y revenir, vous n'aurez qu'à cliquer sur Fondation Vacciarelli et vous en saurez un peu plus. Ok. Derrière cette réalité, qui est une réalité quand même qui est construite par l'homme, hein, c'est pas une réalité de la nature, mais c'est une réalité quand même. Hein, là, eh bien, les mathématiques peuvent nous aider à mieux comprendre cette chose et à comprendre dans quel espace cette chose-là vit. Parce que bon, il n'y a pas, non, y a seul, pas seulement des disques, il y a aussi des disques qui ont la couleur change en fonction de la position. Et tous ces paramètres-là, on peut essayer de les comprendre. Peut-être qu'il y a quelque chose à comprendre. Et peut-être que une fois qu'on aura compris comment c'est fabriqué, comment celle-ci est fabriquée, ce qui en soi n'est pas vraiment très très créatif, hein, je veux dire, reproduire une œuvre d'art, c'est pas très créatif. Là où ça devient créatif, c'est quand, en ayant compris comment cette œuvre d'art-ci était construite, entrevoir tout un univers des possibles, un univers dans lequel cette œuvre d'art-là est un point. Okay? Et puis comprendre qu'on peut faire varier, on a fait des choix pour créer cette œuvre d'art, et on peut faire varier ces choix-là. Et bien, être créatif, c'est souvent faire des choix, poser des choix. Donc, voilà, comprendre mathématiquement une œuvre d'art qui a été construite avec les mathématiques nous permet également d'être créatif et de fabriquer des œuvres d'art qui seront inspirées de celles-ci, mais qui seront différentes. S'inspirer des choses, les recopier et les modifier, c'est un exercice de créativité. Ok. Donc je vais vous parler d'autres choses où les fonctions nous donnent accès à de la créativité. C'est le projet Imaginary et en particulier le logiciel Surfer. Je vous ai mis une URL, l'URL vers le logiciel Surfer. Bon, vous pouvez y aller directement, mais vous allez un peu perdre de ce que je vais raconter. Mais c'est un logiciel dans lequel on met une équation algébrique du style celle qui est pour les citrons là, x2 plus z2 est égal à y cube facteur de 1 moins y plutôt au cube. Donc le y cube 1 moins y au cube, c'est ce qui donne les deux points là. D'accord? Et tout le reste, eh ben, c'est x2 plus z2 dans l'axe, dans le plan xz. Ça vous donne le cercle. Le cercle dont le rayon varie en fonction du y. Donc, c'est compréhensible. Je veux dire que c'est compréhensible que quelque chose comme ça va nous donner une sorte de citron. Et donc, le projet Imaginary nous aide à donner des exemples qui sont magnifiques, d'équations de surface algébrique. Donc, ça, c'est une surface algébrique. Qui sont là pour le plaisir des yeux. Et puis, on voit qu'il y a une formule derrière. On peut essayer de modifier les paramètres de la formule pour tenter d'explorer un petit peu des surfaces différentes et d'être créatif soi-même, simplement en entrant une expression algébrique. C'est-à-dire que voir que derrière une expression algébrique, eh bien, il y a de la créativité, ça c'est difficile de le faire en classe en tant que tel. Par contre, si vous voulez organiser une exposition de imaginary dans votre pays ou dans votre université, eh bien, c'est pas très très difficile. Et donc, je vais revenir là-dessus pendant ce petit séminaire. Ok? Donc, voilà, imaginary, c'est un programme, c'est un groupe de gens, en particulier autour d'Allemands, qui sont à l'Institut, non, à Oberwolfach, donc ce sont des gens qui mettent à disposition des outils qui peuvent vous permettre de fabriquer de tenir une exposition dans votre pays. Ok. Et donc, et en particulier, de permettre à un grand public d'accéder au fait que il y a beaucoup de créativité derrière la construction d'une expression algébrique. Voilà. Donc, alors, les fonctions et la créativité hors la classe. Déjà, on va parler de la créativité. Qu'est-ce que c'est que la créativité? Alors, il y a la créativité avec un grand C, et puis il y a la créativité avec un petit C. Alors, la créativité avec un grand C, c'est la grande créativité des Einstein, des Poincaré, des Cédric Villani, etc. Et bon, donc ces mathématiciens, bah, il se trouve qu'ils sont tous les trois français, se sont intéressés à qu'est-ce que c'est que la créativité. Et donc Henri Poincaré, par exemple, au début du XXe siècle, a décrit son travail d'une manière très personnelle. Et il a donné à voir le processus de création à l'œuvre dans son propre travail. Cédric Villani, qui est médaille Fields et qui est de Lyon aussi, de l'Université Claude Bernard Lyon 1, mais qui est en fait surtout le directeur de l'Institut Henri Poincaré à Paris, a reproduit ce schéma et a fait un livre qui s'inspire de la science et l'hypothèse de Poincaré, qui s'appelle Théorème vivant, où il a aussi décrit d'une manière tout à fait personnelle et humaine le processus de création du théorème qui lui a valu la médaille Fields. Jacques Adamard s'était intéressé plus à la psychologie de l'invention dans le domaine de mathématiques en interviewant, en faisant des entrevues d'un grand nombre de ses collègues et en tentant de décrire le processus de créativité. Et alors, bon, ils ne sont pas les seuls à arriver à quelque chose comme ça, donc qu'on appelle dans mon groupe le diamant de la créativité. Donc, plusieurs phases bien séparées de la créativité. Alors, c'est important pour nous, enseignants ou chercheurs sur l'enseignement, d'être conscients du fait qu'il y a différentes étapes dans la créativité et de débroussailler un petit peu le vocabulaire autour de la créativité. Alors, donc, faut bien comprendre déjà que dans la créativité, il y a deux phases. Une phase divergente, où les choses foisonnent et sont pas encore très ordonnées. Et puis ensuite une phase convergente, où on réussit à arriver jusqu'à un produit. Okay? Il n'y a pas de créativité s'il n'y a pas ces deux moments. Okay? Un peu comme la respiration. Okay? Si on ne peut pas respirer si on fait que inspirer ou si on fait que souffler. Il faut les deux. Okay? Et donc dans la créativité, c'est un peu pareil. Divergence, où on entre, quoi. Et puis ensuite convergence. Où on arrive à quelque chose. Et donc, ces différentes phases, ça commence par une phase de préparation. Donc, on étudie le problème, le phénomène, on le retourne un peu dans tous les sens, on commence à lui faire sortir ce qu'il a dans le ventre. Et à un moment donné, on va arriver à un os, il va falloir du temps. Et ce temps, c'est le temps de l'incubation, où les choses peuvent, on rumine un petit peu, et puis, à un moment donné, si tout se passe bien, eh bien, on a une petite illumination et on voit comment faire. Mais on doit, une fois qu'on a l'idée, on doit quand même traduire ça d'une manière qui soit, qu'on puisse en particulier communiquer à quelqu'un. Et puis, il faut que non seulement on puisse le traduire dans un langage approprié qui nous permette de le communiquer à quelqu'un, mais il faut encore que ce quelqu'un, on le convainque. C'est-à-dire qu'il y ait une vérification du fait que notre idée est effectivement appropriée. Et quand on a fait tout ça, on peut, par exemple, pour un mathématicien, publier son résultat. Okay? Alors, en fait, ce diamant de la créativité, il intervient, c'est un peu comme un fractal, si vous voulez, que à l'intérieur même de ce grand diamant de la créativité, il y a tout un tas de petits moments où on va préparer, incuber, avoir une petite illumination, traduire, vérifier, etc., pour pouvoir avancer. Donc, entre la préparation et l'incubation, on peut avoir une micro-illumination, par exemple, comment ça marche pour n égale à 3? Je vais prendre un exemple. Et puis cet objet-là, ce nouvel objet, comment je vais l'appeler? Je vais l'appeler X. Eh bien, rien que nommer une chose, c'est déjà, on fait déjà appel à un tout petit diamant de la créativité. Enfin, on fait œuvre de créativité en nommant les choses. Si jamais on n'arrive pas notre incubation, si on n'arrive pas à s'en sortir, si ça bloque, eh bien à un moment donné, eh bien il faut faire autre chose. Par exemple, aller se promener ou dormir, etc. Donc c'est la période d'incubation qui souvent nous échappe un peu. Dans la phase convergente, souvent on fait appel à la conscience. Et dans la phase d'incubation, eh bien, on peut très bien avoir des phases qui nous échappent complètement et qui ne sont pas conscientes. Si on a assez préparé le terrain, si le problème qu'on se pose, eh bien, on a dans notre boîte à outils mathématiques et conceptuels les outils pour la comprendre, peut-être allons-nous la comprendre et avoir une illumination. Okay, donc l'illumination, c'est souvent, ça se sent comme un coup de tonnerre, quoi. Souvent la créativité est simplement réduite à cet aspect-là d'illumination. Alors qu'il faut quand même tous les autres aspects pour pouvoir vraiment être créatif. On n'est pas simplement créatif en étant illuminé. On est illuminé, c'est tout. Ok, donc on a une idée, et donc après il faut la traduire. Et quand on la traduit, là encore, on passe par des ruminations, des traductions, des micro-traductions, des micro-vérifications pour avancer. Pour aboutir finalement à une idée qui se tienne de bout en bout, voilà, et donc une publication. Alors nous, enseignants, on s'intéresse quand même aussi à un autre aspect, qui est l'aspect réflexif. C'est-à-dire que pour qu'il y ait vraiment apprentissage, pour que quand on ait résolu un problème, ce problème s'inscrive dans un processus d'apprentissage, il faut que, à un moment donné, on se dise, bon, qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai résolu ce problème-là. Mais ce problème, en fait, il est un parmi d'autres. C'est-à-dire que résoudre ce problème-là, une fois qu'on l'a bien compris, eh bien, ça nous permet de résoudre d'autres problèmes qui lui sont liés. Sinon, on a été créatif qu'une seule fois et c'est pas vraiment, il n'y a pas vraiment d'apprentissage. Okay? Donc la réflexion, elle est à mettre dans la boucle si on veut vraiment qu'il y ait apprentissage. Se servir de ce diamant de la créativité là dans l'apprentissage. Alors il y a la créativité avec un grand C qui est réservé aux grands créateurs, hein, Léonard de Vinci, etc. Et puis le petit C, la créativité avec un petit C, un C minuscule, qui s'intéresse à la créativité dans la classe. Voilà. Donc on ne va pas demander à nos étudiants, à nos élèves, de fabriquer de nouvelles mathématiques, mais plutôt d'utiliser des nouvelles mathématiques à bon escient et pour trouver de nouvelles choses pour eux. La créativité, si vous voulez, elle peut être relative à leur propre état, okay, au propre état des apprenants, et ils sont créatifs à leur niveau. Alors donc, quand on a des enfants en face de nous, on voit bien qu'ils sont extrêmement créatifs, hein, donc un enfant, ça n'arrête pas de créer et de jouer, de découvrir comment le monde marche en étant créatif. Et pour ça, ça s'appuie sur son expérience motrice, par exemple, motrice fine, la pince ou les doigts, on touche, etc. On entend. Et on entend pas seulement pour comprendre le langage parlé, mais également pour s'informer de tout ce qu'il y a autour de nous, les bruits, voilà, etc. Donc, alors pourtant, nous, dans la classe, et bien, en général, ces sens-là, on les utilise d'une manière un peu trop souvent castratrice, quoi. C'est-à-dire que on voudrait que les élèves qu'on a en face de nous, en fait, ils soient pas trop créatifs, quoi. On a une vue de la manière dont ils apprennent qui est finalement extrêmement transmissive. C'est-à-dire que nous, on sait, eux, ils ne savent pas, et on leur transmet le savoir en leur criant assez fort. S'ils n'ont pas compris, c'est qu'ils sont bêtes, et on répète simplement. Voilà, donc je dis pas qu'on fait tout ça, mais bon, voilà, c'est quand même quelque chose qu'on fait assez souvent. Et en s'appuyant sur une vision de ce que c'est que le savoir, qui est simplement assez souvent dans la classe, manipuler des symboles sur la feuille de papier ou sur le tableau. Donc la créativité, elle est où là-dedans? Elle est difficile à faire émerger en fait. Et donc il ne s'agit pas tant de stimuler la créativité que de réussir à ne pas l'empêcher. D'accord? Donc réussir à rendre les élèves créatifs, il suffit de qu'ils se sentent libres et qu'ils se sentent pas empêchés d'être créatifs. Ça, c'est quand même un contrat didactique qui est très difficile à faire exister dans la classe et qui est quand même beaucoup plus facile à faire exister dans d'autres contrats didactiques parce que quand même, hein, dans la classe, on sait bien, il y a un curriculum, on n'a pas beaucoup d'heures, donc on est extrêmement contraint. Donc c'est très difficile de ne pas empêcher la créativité naturelle des élèves et des apprenants. Dans le primaire, c'est possible, c'est comme ça qu'on apprend, mais arrive le collège, arrive et cette créativité des enfants, on la brime de plus en plus. Donc voilà, c'est pour ça que peut-être que la popularisation des mathématiques est un lieu un petit peu plus humain pour comprendre comment marche la mathématique. C'est en tout cas ce que je propose ici, et donc par exemple, avec des expériences tout à fait. Oui, j'exagère un peu là, bien sûr que j'exagère un peu. Oui, bien sûr que j'exagère. On peut, la classe peut aussi être. Merci Fabrice, hein, la classe peut aussi être un lieu de créativité, et un lieu où il n'y a pas que la transmission qui se fait, etc., et où les jeunes travaillent. Je suis d'accord. N'empêche que c'est beaucoup plus facile en levant certaines contraintes pour renégocier des contrats. Je suis d'accord qu'à un moment donné, il faut réussir à faire vivre la créativité dans la classe et la compréhension dans la classe en grand groupe. Mais bon, c'est quand même plus facile dans d'autres contextes. Et donc en particulier, là, je vous parlais de Matangine, qui sont des dispositifs d'initiation. Ouais, je vois que vous êtes attentifs. D'initiation à la recherche, par la recherche, sur le long terme. C'est-à-dire que saupoudrer d'un petit peu de socio-constructivisme et d'initiation à la recherche entre 11h30 et 11h45, eh ben, c'est pas facile. Avoir les contraintes de temps et de programme, c'est pas facile de faire sur le court terme et de saupoudrer comme ça. Une année globalement transmissive d'un petit peu de socio-constructivisme. Et donc Matangine a choisi de s'extraire un peu de ça et de proposer des ateliers sur le long terme, sur l'année entière, de collaboration entre un chercheur en mathématiques. Bon, on peut être chercheur assez rapidement, hein, ça peut être un thésard, ça peut être un formateur SP, ça peut même être un étudiant en mathématiques. Et donc, qui propose un sujet, qui propose un domaine, et qui va rencontrer la classe quelques fois dans l'année, disons 3 fois dans l'année. Et cette classe, elle travaille toutes les semaines. Toutes les semaines, le club de maths se rencontre. Et en fait, se rencontre aussi de manière jumelée. Le J de Matangine, ça veut dire pour jumeler. Et c'est vraiment très important parce qu'on a deux établissements différents, et c'est encore mieux si c'est un collège et un lycée, ou un lycée et une université, qui sont jumelés, de manière à ce que des groupes d'élèves s'intéressent aux mêmes questions, mais avec des outils différents. Et c'est vraiment toujours, toujours très intéressant de voir ça. Mais c'est bien aussi quand c'est les mêmes outils, parce que y a des élèves qui vont partir dans une voie, et quand ils vont se rencontrer avec les autres élèves qui sont partis dans une autre voie, et qui vont essayer de s'expliquer les choses, eh bien, ils vont se rendre compte combien il est difficile de parler des choses, de parler des phénomènes, si on n'a pas posé les bonnes définitions. C'est-à-dire qu'on a l'impression de se comprendre au départ, puis finalement on ne comprend plus rien de ce qu'ils disent, alors qu'on a travaillé sur le même sujet. Et donc ça oblige à poser les définitions et à clarifier les concepts. C'est vraiment très intéressant. Et donc, on travaille comme ça toute l'année, et ça se termine par un congrès. Donc là, c'était un congrès qui était à Lille, je crois, je ne sais plus à quelle année. C'est-à-dire que on va jusqu'au bout de la démarche du chercheur. Le chercheur, il cherche dans son coin, il travaille avec d'autres, il travaille en équipe, il se rencontre avec des spécialistes, et puis finalement, une fois qu'il a trouvé des résultats, eh bien, il les publie sous forme d'un colloque, par exemple, d'un congrès, où il va exposer ses résultats sous la forme de posters, sous la forme de conférences. Il va intervenir non seulement en tant que conférencier, mais aussi en tant que contradicteur. Il va poser des questions, et dans un stand, on va aussi tenter de faire comprendre à ceux qui passent l'objet et les résultats de travail. Enfin bref, c'est puis finalement on peut publier aussi. Il y a aussi un journal dans lequel on peut publier ses recherches. Voilà, donc c'est une initiation à la recherche par la recherche, et c'est vraiment formidable. C'est vraiment formidable. On en a organisé quelques-uns ici à Lyon, et le dernier qui était en avril 2016. Il y avait des jeunes du cours moyen jusqu'à l'université, et quand on a un enfant de 12 ans qui vous tient un amphi de 150 personnes, puisqu'ils étaient quand même plus de 650, eh bien c'est quand même très impressionnant. Et puis ils sont là à vous agripper et à vouloir absolument vous faire comprendre tout sur les engrenages, sur le problème qui les a occupés. C'est vraiment extrêmement stimulant. Donc je vous enjoins à donc si vous êtes enseignant, eh bien à convaincre votre équipe pédagogique de faire un atelier Matangine. Il y a une personne à convaincre qui est vraiment importante, c'est le chef d'établissement, parce que c'est quand même lui qui en général va vous laisser partir vers un congrès. Il a participé aux universités d'été aussi, merci David. C'est ça, tout à fait. Donc on a fait une université d'été cet été ici à Lyon, en marge de l'école d'été Matin Folie, qui était pour les élèves de première. Enfin bon, ça c'est un autre sujet. Quoique, puisque c'était quand même je vais vous coller Matin Folie alors, tant qu'à faire. Matin Folie. Voilà. C'était l'école d'été Matin Folie qui a suivi un petit peu la méthodologie Matangine, mais seulement sur une semaine, avec des exposés de chercheurs qui ont ensuite fait vivre des ateliers où les jeunes se sont ont réfléchi pendant une semaine sur les graphes, sur l'astronomie, la position du soleil à l'heure de midi par exemple, ou sur la génétique des populations, en particulier les épidémies, comment une épidémie se propage. Enfin bref, différents sujets, et ensuite produire de la recherche sur ces sujets-là et se les exposer les uns aux autres. C'était passionnant. C'était niveau première S, et l'année prochaine, a priori, on devrait faire ça au niveau L2. Donc si vous avez des étudiants de L2, eh bien vous pourrez vers le printemps regarder ce qu'il en est, s'ils veulent faire s'ils veulent participer à une école d'été comme ça. Alors, je m'éloigne un peu de Matangine. Donc, si vous êtes un enseignant, vous pouvez donc tenter de convaincre votre chef d'établissement et vos collègues. Vous pouvez aussi chercher un chercheur qui va vous aider et vous épauler, peut-être même en téléconférence, hein, ça peut se faire hein, en téléconférence, de vous aider à faire vivre un atelier sur un sujet au cours de l'année. Et puis, si vous êtes chercheur, eh bien, vous proposez de manière à faire des ateliers. Alors, je vais présenter un atelier qui est presque sur le modèle Matangine, qui s'est passé à Tunis. Ça s'appelait Parcours au lycée Pierre Mendès France de Tunis. Enfin bon, je vais y revenir. Donc, c'est-à-dire que ça peut très bien se passer hors métropole. Hein. C'est pas, donc ça peut très bien se passer loin et pourquoi pas organiser des congrès, des mini-congrès régionaux. Hein. Voilà. Donc ce contexte-là, Matangine, permet de faire vivre des mathématiques un peu plus sur le long terme, un peu moins avec l'obligation de la note, qui est vraiment qui nous tue, quoi, assez souvent, un peu plus sous la forme de découverte personnelle de l'intérêt pour soi-même des mathématiques. C'est pas un intérêt extrinsèque de l'intérêt c'est d'avoir une bonne note. Non, c'est un intérêt intrinsèque. J'ai envie de répondre à une question et je me rends compte que finalement les mathématiques vont m'aider à répondre à des questions que je me pose moi-même, qui m'intéressent moi-même. C'est ça qui est vraiment formidable. Ok, donc voici ici l'expérience, l'atelier qui était fait par Benoît Rey au lycée de Tunis. Donc là, vous avez une boule. Donc il s'agissait de comprendre le roulement d'une boule sur un plan incliné. Donc des vidéos comme ça, il devait en avoir une bonne dizaine. Mais je vais en reprendre d'autres ici comme ça. Donc ici, vous avez vu une vidéo d'une boule qui descend sous l'effet de la gravité. Oui, c'est bien la gravité la question. Sur un point incliné. Et donc c'était une des expériences de Galilée. Hein, vous savez très certainement que Galilée n'a pas fait tomber un kilo de plume et un kilo de plomb de la tour de Pise, comme c'est parfois dit dans les dans des mythes sur Galilée. Mais bon voilà, il a fait en tout cas ça de faire rouler une bille le long d'un point incliné. Alors bon, avec des moyens modernes, comme par exemple des ordinateurs qui font de la reconnaissance de vidéos, de la reconnaissance d'images, on peut avoir ce genre de choses. Et donc vous voyez que derrière, il y a une fonction, c'était le 1/2 de GT2, c'est 1/2 de A t carré, c'est donc le 1/2. Le A, c'est l'accélération fois t au carré. C'est donc la fonction que Galilée a découvert. Okay. Et donc, en fait, il l'a pas fait avec un ordinateur. Hein. Et puis lui, il attend. Ok, salut Fabrice, à la prochaine. Merci d'avoir déjà participé jusque-là. Donc le problème, c'est que même les élèves avec des chronomètres super performants, ils ne réussissent pas à avoir cette courbe-là. Okay. Donc comment faire pour ça? Et donc peut-être que Benoît Rey va l'expliquer plus en détail dans un autre exposé. Mais ils se sont appuyés sur d'autres choses que l'analyse ils sont appuyés sur d'autres sens que la vue, excusez-moi, ils sont appuyés sur l'ouïe. Mais bon, simplement pour dire que derrière il y a des fonctions, hein, donc il y a la fonction 1/2 de GT2, et comment est-ce qu'on fait pour avoir la fonction 1/2 de GT2? On analyse la position en fonction du temps de la bille, et on voit que ça ne nous donne pas une droite, hein, parce qu'en général, en mathématiques, si on a des points, on essaye qu'ils soient tous, que ce soit une constante. Si c'est pas une constante, eh ben, on tente de modéliser ça par une droite. Et si c'est pas une droite, eh ben, c'est un peu compliqué. Donc, et en particulier ici, le cas, c'est que ça nous donne une parabole, c'est-à-dire que la différence des positions en fonction du temps, elles sont modélisées, pas trop mal modélisées, par une droite. Okay. Donc, c'est la puissance de la droite, si vous voulez, comme explication de non pas la position de la bille en fonction du temps, mais de la vitesse de la bille en fonction du temps. En plus, ce qui est intéressant, c'est la puissance de la droite, elle se voit même au carré, quoi, si vous voulez. C'est-à-dire que si on rassemble différentes expériences avec différentes pentes, eh bien, c'est-à-dire différents A, quoi, différentes accélérations, eh bien, on voit que l'accélération dépend linéairement de la pente. C'est-à-dire que quand on fait pente en fonction de l'accélération, eh bien, on retrouve encore une droite. Mais une droite encore plus abstraite. Puis on avait déjà une première droite ici, qui était la droite des points relevés par le logiciel de pointage vidéo. Donc on a une droite qui est physique, les points alignés physiquement, même si c'est un du temps différent. On a une droite un petit peu plus complexe, qui est la droite des vitesses en fonction du temps. Puis une droite carrément abstraite, dans un espace de configuration qui est vraiment abstrait, où on a l'accélération en fonction de la pente. C'est-à-dire la pente de cette droite, hein, de ces différentes droites, mais vue dans l'espace de toutes ces droites. Donc voilà, donc ça permet de comprendre avec un bagage mathématique relativement faible, hein, la fonction linéaire ici, la fonction affine plutôt, excusez-moi, d'avoir accès à ce 1,5 de AT carré qui est tellement qui fait vraiment la renaissance, s'il vous plaît, hein, si vous voulez. Hein, c'est le début de la science moderne tient à ce 1,5 de AT carré. Ok, donc donc comment Galilée a fait? Il s'est appuyé sur un autre sens, qui est Louis. Donc j'espère que ici vous pouvez tous jouer le petit film. Donc vous entendez un métronome, tic tac tac tac, tic tac tac tac, tic. Et vous entendez aussi des ding quand la bille, quand la boule passe à l'aplomb d'un des élèves qui visiblement s'ennuie un petit peu parce qu'ils ont dû faire ça au moins 15 fois, de manière à ce que la bille tombe devant eux exactement sur le temps du métronome. Donc ils ont une petite clochette et la bille cogne une petite clochette et ils positionnent la clochette de manière à ce que le temps entre deux clochettes soit exactement le temps du métronome. Voilà. Donc ça c'est donc la fonction affine au service d'un problème qui est motivant, je trouve quand même, de décrire le mouvement. Donc vous pouvez aller voir sur le site du lycée Pierre Mendès France, hein, j'ai mis autour de ces images là, et vous en saurez plus. Ils ont fait une super belle vidéo de restitution, une super belle présentation de restitution, c'est vraiment formidable. Donc nous de notre côté, on avait fait des simulations numériques qui permettaient de simuler, parce que ça c'était pas facile, hein, faire une grande planche de 6 ou 7 mètres de long, bien plate, etc. C'est vraiment pas facile, donc la technologie peut nous aider à simuler des expériences compliquées à faire en vrai. Voilà. Alors donc ça c'était, si vous voulez, d'une certaine manière, les fonctions. Qui s'appuie pour pouvoir créer, pour pouvoir acquérir les points qui définissent cette fonction, on s'appuie sur l'oreille, okay, sur l'audition. Et un autre point qui peut être intéressant pour éveiller la créativité ou même simplement parler à d'autres élèves que ceux à qui on a l'habitude de parler quand on s'adresse aux bons élèves qui sont bons à manipuler des symboles sur une feuille, eh bien, c'est de s'appuyer sur le mouvement du corps, c'est la kinesthésie. On a fait des expériences avec la Kinect de Microsoft, qui est une caméra en 3D, qui permet de reconnaître les mouvements du corps et donc d'avoir un petit un petit jeu, si vous voulez, où le but du jeu, c'est de placer ses membres de telle manière à ce que son bras, sa main, ses épaules soient le plus proche possible du grade d'une fonction. Okay. Donc là, par exemple, devant mes yeux, j'ai 1 sur x2. Je ne sais pas ce que vous dites. Donc, une fonction très... prépends-tu, la valeur absolue de x avec des bras qui forment des droites. Enfin voilà. Donc s'appuyer sur une autre façon de voir les fonctions qui sont une façon, si vous voulez, kinesthétique d'implication du corps et d'expérimenter une fonction, pas seulement comme la variation de quelque chose, c'est-à-dire qu'en apsis, ce n'est pas le temps, c'est autre chose, c'est le graphe de la fonction en tant qu'objet. Okay? Donc voilà, donc ça c'était un des jeux que nous avons. Un autre, peut-être un petit peu plus sophistiqué, qui fait appel à des fonctions, c'est la modélisation de différentes spirales qui apparaissent dans la nature. Donc on a tout un tas de ressources pédagogiques là, autour des spirales, et parce que si vous tapez spirale dans la nature, sur Internet, vous allez tout de suite tomber sur des spirales de Fibonacci, et on va voir des spirales de Fibonacci partout. Est-ce que c'est le cas? Ben, faut voir, quoi. Donc, il faut voir si modéliser une spirale qui apparaît, par exemple, quand vous prenez un chou rouge et que vous le coupez en deux, eh bien, est-ce que ces spirales-là sont ou non modélisées par la spirale de Fibonacci? Eh bien, c'est une question. Et donc, on peut donc rectifier ce qu'on avait dans un repère polaire, le mettre dans un repère cartésien, et tenter de voir si la spirale de Fibonacci, qui est celle qui est en moutarde tirtée, là, c'est une exponentielle, donc, modélise une spirale qui est assez proche de ce qu'on voit ou pas. Bon, oui, c'est pas une trop mauvaise idée de modéliser certaines de ces spirales sous la forme d'une exponentielle. Alors, bien sûr, hein, ça c'est très sophistiqué, ce sont des mathématiques très sophistiquées, on peut se demander, bon, des fonctions moins sophistiquées que ça, est-ce qu'on en rencontre facilement autour de nous? Eh bien, est-ce que c'est motivant? Ben oui, pourquoi pas? Voici par exemple une création de Julio Leparc, qui est donc une. Je l'avais présentée à Strasbourg, celle-là, pour ceux qui étaient là. Donc, on a un petit dispositif où on prend un ensemble d'œuvres d'art. Donc, excusez-moi, je vais vous les copier, ça, parce que j'avais oublié de les copier ici. Voilà. Donc, on a un ensemble d'œuvres d'art, des images, simplement. Et on tente d'ouvrir un œil, d'avoir un œil scientifique là-dessus. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qu'on voit? Et ici, on voit une spirale, clairement. Une spirale. Déjà, on voit des carrés qui sont mis selon une grille. Mais la couleur de ces carrés change de manière spiralée. Et puis, on voit que ça se répète quand même. Il n'y a quand même finalement pas tant de couleurs que ça. Je dirais qu'il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Il y a 14 différentes couleurs qui se répètent, parce qu'après ça va du jaune au jaune, mais en passant par le bleu, le violet, le rouge, le orange, enfin bref, on a 14 couleurs comme ça, et puis on fait une spirale. Okay? Donc ça on peut, il y a plein de fonctions là-dedans. Par exemple, on peut décrire les fonctions qui président à l'évolution des couleurs en fonction du numéro dans la série, ou on peut, il y a différents endroits où on peut trouver des fonctions à dire là-dedans. Par exemple, il y a une fonction vraiment très très intéressante, qui est la fonction qui va des entiers, 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. à l'infini, vers les points du plan à coordonnées entières. Et donc ici, on a clairement une bijection des entiers, 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc., dans les points à coordonnées entières, c'est-à-dire 0, 0, 1, 0, moins 5, 3, etc. Ce qui n'est déjà pas banal en soi. Alors, c'est pas du tout une fonction comme on en a l'habitude de les manipuler en classe, nous, mais il n'empêche que derrière, il y a une fonction. Alors, bon, des fonctions, il y en a d'autres dans tout un tas. Donc, ça, c'était Julio Leparc. Ici, ça, c'est une œuvre de Vasarely. Donc, où on a une transformation qui est ici composée d'une rotation et d'une homothétie. Ça s'appelle une similitude. Et on a une suite comme ça de carrés noirs et blancs. Qui sont donc un peu noir, un peu blanc. Et ça, c'est facile d'expliquer ce qu'il y a derrière, mais c'est facile de modéliser. Donc, c'est facile de poser les mots justes. pour décrire la chose, et pourquoi pas aller jusqu'à l'expliquer à une machine. C'est-à-dire que c'est pas très difficile de fabriquer cette œuvre-là, ou même l'œuvre précédente, à l'aide d'une machine, en utilisant un logiciel approprié, par exemple GeoGebra. C'est peut-être pas le plus approprié, mais ça peut être utilisé pour ça. Une troisième artiste que j'aime beaucoup, c'est Bridget Riley, qui est aussi du mouvement Op Art, Optical Art. Et donc, elle utilise beaucoup le graphe d'une fonction, simplement le graphe d'une fonction comme objet graphique. Et elle va le translater un petit peu, par exemple, ça va être une famille de graphes qui vont être translatés un petit peu en X, translatés un petit peu en Y. Donc, il y a une suite de graphes, et simplement, l'objet graphique, graphe d'une fonction, comprendre que derrière le graphe d'une fonction, eh bien, on peut être créatif. Certains artistes reconnus mondialement ont bâti leur merci Laurent la prochaine ont bâti leur carrière sur une exploration du graphe de fonction. Ok. Donc on peut être créatif et faire de l'œuvre d'art, des œuvres d'art simplement avec le graphe d'une fonction. Alors bon, bah, ça c'est encore plus vrai dans le projet Imaginary. Et en particulier à l'aide du programme Surfer. Donc, je vous invite à le télécharger, ce programme, et à l'utiliser. Donc, il y a par exemple toute une série de courbes algébriques, de surfaces algébriques. On dit courbes en maths parce que, en fait, c'est à un nombre complexe, on associe un nombre complexe. C'est-à-dire que x, y et z, là, tout ça, en fait, on les voit comme une trace réelle de nombres complexes. Donc, on appelle ça une courbe. Mais en fait, bon, ici, c'est une surface. Donc on a des surfaces comme ça donc on a toute une série de surfaces, donc ligne d'onde ici, ou vis-à-vis, ou encore calypse, qui prennent lieu et qui sont proposées, comme pour fabriquer une exposition. Donc vous pouvez télécharger ces posters, les imprimer. C'est pas donné hein, de les imprimer des posters beaux comme ça, mais bon voilà, donc vous pouvez peut-être avoir des aides. Faut demander à Imaginary si c'est possible d'avoir des aides, parce qu'ils peuvent aussi vous envoyer physiquement les posters déjà imprimés. Mais en tout cas, quand on a ces posters là et qu'on a un ou deux ordinateurs avec le logiciel Surfer installé dessus, ben on peut faire une exposition Imaginary qui permet au grand public de comprendre que derrière une fonction, eh bien, on peut faire des œuvres d'art. On peut faire soi-même de l'art, et une expression algébrique, c'est pas juste quelque chose d'embêtant où il faut pas se tromper, etc. Non, là, on a le droit de se tromper, on a le droit d'expérimenter, et ça va donner quelque chose de joli, a priori. Enfin, si on fait quelque chose de complètement aléatoire, ça va donner rien de joli. Mais si on se donne assez de peine, eh bien, on va pouvoir affiner les paramètres qu'on a choisi de manière à ce que ce soit joli. Donc je vous invite à faire un congrès Matangine chez vous, et avant ça de faire des ateliers Matangine chez vous, et je vous invite à faire une exposition Imaginary chez vous. Donc chez vous, ça peut être un peu n'importe où. Il faut se mettre en relation si possible avec des collègues, parce que a priori, plus on est nombreux, mieux c'est. Voilà. Et donc faire une exposition. Donc tout ça, ça nous permet de voir que la technologie, parfois ça peut être une valeur ajoutée à l'expression de la créativité, en particulier de la créativité autour de la notion de fonction. Parce que bien souvent la technologie c'est un empêchement. Et là, hein, on a au début de l'heure, on a bien vu, on avait qu'on n'a pas réussi à avoir le son, qu'ils ne réussissent pas à parler. Voilà, donc la technologie, assez souvent, on la vit au quotidien comme étant un empêchement. Mais n'empêche qu'elle peut avoir sa valeur ajoutée, en particulier dans l'expression de la créativité des élèves. Voilà, donc je crois que je vais m'arrêter là. Donc c'était donc une présentation, une petite présentation hein, de pas très longue de les fonctions et la créativité hors la classe. J'espère que vous avoir intéressé. Et je vais m'arrêter là. Donc c'est le temps des discussions. En particulier, ce qui serait intéressant, c'est qu'il y ait des collègues qui soient assez motivés pour exposer. Donc, je me suis proposé pour être la première personne à, à exposer dans le cadre de ces séminaires IREM, de ces téléséminaires IREM international. Mais s'il vous plaît, eh bien, proposez-vous, vous avez très certainement des choses à raconter qui sont sûrement aussi passionnantes que ce que j'ai raconté. Donc alors, je vous rappelle que ici, c'est pas comme Skype, on n'est pas tous à parler en même temps, c'est un push-to-talk, comme on dit en anglais, c'est-à-dire ici, il faut que vous appuyez sur le petit bouton là, si vous voulez dire quelque chose, et à ce moment-là, ça lève le doigt, et donc ça vous met dans la file pour poser des questions. Vous pouvez aussi poser des questions simplement avec le clavier. Et j'aimerais ne pas être le seul à répondre aux questions aussi. Si voilà, c'est plus une discussion qu'une session de questions. Voilà, donc je vais donc couper le son que j'ai et je vous invite à prendre la parole et à poser des questions. Merci à vous.
Christian, donc ce que tu nous as montré, il y avait des expositions de la Maison des Maths, c'est ça?
En fait, la Maison des Mathématiques, c'est un lieu où nous avons des expositions, nous hébergeons des expositions, nous avons des artistes qui peuvent être en résidence, c'est-à-dire qui vont produire quelque chose pour la Maison des Mathématiques, mais nous n'avons encore pas invité Imaginary en tant que tel. Donc, non, c'est Imaginary, c'est encore autre chose. Par contre, la Maison des Mathématiques a financé et organisé des congrès Matangine. Donc, ça, c'est oui, donc la Maison des Mathématiques qui a à voir là-dedans.
Christian?
Oui, Michel, nous t'entendions.
Est-ce que tu m'entends là? J'ai l'impression qu'il y a un problème de son. Bon, tant pis. Je voulais demander si tu pouvais nous en dire un peu plus sur ce que vous avez fait sur les mouvements avec les fonctions.
Merci Michel. Donc les mouvements sur les fonctions. En soi, reproduire, enfin mettre ses bras pour coller au plus près. Au revoir David. Coller au plus près du graphe d'une fonction, c'est pas très créatif. Là où c'était créatif, c'était qu'en fait nous mettions en compétition des groupes d'élèves qui devaient fabriquer une chorégraphie, c'est-à-dire une suite d'expressions algébriques qu'ils proposaient ensuite à la chorégraphie. C'est-à-dire qu'on avait deux groupes, chacun préparait une chorégraphie, c'est-à-dire une suite de fonctions algébriques, et ensuite dansait cette chorégraphie, obtenait un certain score, qui était la précision de leur mouvement, et puis ensuite, le deuxième groupe devait obtenir un score qui était pas trop mal par rapport à ça. Et ensuite on échangeait, c'est-à-dire que le groupe 1, le groupe 2 faisait sa chorégraphie et le groupe 1 tentait de reproduire la chorégraphie du groupe 2. Donc là où c'était créatif, c'était en fait de voir que dans fabriquer une expression algébrique, fabriquer le graphe d'une fonction, eh bien il y a de la créativité là-dedans. C'est-à-dire que c'est pas si facile de vouloir vouloir faire un certain effet. Eh bien, il faut trouver la fonction donc l'expression algébrique qui va faire cet effet-là. Et on s'était intéressé à avoir les uns, on leur donne comme exemple des polynômes, les autres on leur donne comme exemple des fonctions circulaires, et est-ce que les uns vont quand même faire appel à des polynômes alors qu'ils n'ont vu que des fonctions circulaires, et les autres vont faire des fonctions circulaires alors qu'ils n'ont vu que des polynômes, ou des fractions rationnelles, etc. C'est-à-dire quel est le degré de créativité qu'ils ont dans la production de nouvelles expressions algébriques. Voilà ce que nous avons fait. C'est pas encore du tout concluant, hein, on en est encore qu'au stade des balbutiements, mais bon, c'est drôle encore un an avant sa soutenance. Je te repasse la parole.
Merci.
Voilà, bon, moi je voulais ajouter juste au moment où Michel a posé la question, qu'au Mathematicum de Giessen, il y a aussi une belle animation sur les fonctions. Alors il s'agit aussi de les mimer un petit peu de façon physique, mais ce n'est pas en agitant les bras. C'est, on marche de façon linéaire en direction de la caméra, et on accélère ou on décélère, et c'est ça qui va faire la partie croissante ou décroissante. Alors, c'est pas non plus extrêmement créatif parce que la fonction est imposée, mais je trouve que pédagogiquement, pour bien s'imprégner du vécu, du rythme d'oscillation de la fonction, voilà, c'est quelque chose qui permet de vivre un petit peu la fonction. Moi, j'avais trouvé ça intéressant.
Oui, bien sûr, je connais ce dispositif, et d'ailleurs, nous l'avions fait. Nous l'avions mise en place lors du forum des mathématiques vivantes d'il y a un an et demi à l'aide de fonctions de calculatrices Casio avec des capteurs de distance. Donc, ça avait été assez intéressant. Donc on l'a aussi dans ce cadre avec la Kinect. Mais ce que je trouvais un petit peu ce que je voulais combattre d'une certaine manière, c'était la conception que je voulais tenter d'éroder, c'était la conception qui veut qu'une fonction, c'est forcément une modification de quelque chose en fonction du temps. Et donc, je voulais proposer le graphe de la fonction en tant qu'objet lui-même. Okay, donc, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui varie en fonction de rien du tout. Je suis bien d'accord qu'une fonction, c'est une covariation, hein. Mais c'est pas forcément le temps. Donc on a différentes choses, différents dispositifs comme ça, où donc on a ce graphe là où il faut mimer le graphe de la fonction avec ses bras, c'est simplement ses bras, il n'y a pas le temps, il est différent. Et puis on a un autre où c'est on doit se coordonner à deux. Donc il y en a un qui fait x et l'autre qui fait y, et il faut que leur mouvement coordonné permettent au point de coordonnées XY, qui est donné par le mouvement de chacun des deux joueurs, colle au graphe de la fonction. C'est-à-dire qu'il y a covariation entre la position des deux joueurs, et ça peut être dans un sens ou dans l'autre. C'est-à-dire qu'on peut revenir si on veut. Alors que quand le temps il s'écoule toujours dans le même sens, ben, ça met une certaine façon de voir les fonctions, on peut tenter de déstabiliser de temps en temps, qui est historiquement tout à fait pertinente, qui est vraiment extrêmement puissante, mais qu'on peut de temps en temps tenter de déstabiliser. Voilà.
Oui, puisque personne ne parle, c'est sûr que les premiers dispositifs avec le temps ont été largement explorés par les chercheurs. Il y a beaucoup de travaux là-dessus pour comprendre les phénomènes de vitesse, d'accélération, etc. Mais justement, je me disais que là, il y a aussi des possibilités d'exploitation. Et le dernier que tu donnes, effectivement, en particulier avec des X, un élève qui est censé jouer le rôle de X, l'autre celui de Y, et ils doivent se coordonner pour arriver à produire quelque chose, ça, c'est quelque chose sur lequel j'ai l'impression qu'il y a, pour l'instant, beaucoup moins de travaux de recherche. Donc, c'est effectivement aussi quelque chose d'intéressant à explorer.
Et donc, je voulais savoir si tu avais vraiment fait pratiquer cette variation indépendante du X et du Y. Tu as conçu un dispositif qui permettait de le réaliser?
Ben, toujours avec la Kinect, quoi. Parce que la Kinect, en fait, on peut avoir plusieurs joueurs qui sont identifiés. Et donc, on peut charger l'un d'être le X et l'autre le Y. Et on peut connaître la position de l'un et de l'autre. On peut, un autre, une chose que je veux utiliser, en fait, c'est aussi... les capteurs qu'il y a à l'intérieur des téléphones. On en a un qui est très bien, qui est ceux qui sont équipés de gyroscopes, c'est encore mieux, mais simplement un peu comme un télécran, si vous voulez. Okay, donc on avoir deux téléphones, et puis réussir à manipuler comme ça, comme un télécran. Donc l'idée, c'est d'avoir des choses robustes qu'on puisse donner à du grand public, okay, parce que l'idée, c'est d'avoir des choses qui sont hors la classe, dans une conformation robuste, quoi, de type musée, et donc avoir des manettes qui Enfin bref, voilà, tenter d'avoir le moins possible de choses qui cassent. Si c'est le téléphone des personnes eux-mêmes, ben ça va pas casser. Ah, les dispositifs, donc il y a des logiciels que Pedro Lealdino Filio, là mon César a écrit, qui permettent d'interfacer, et puis ensuite on utilise Cinderella. Cinderella, donc c'est avec le site cinderella.de, et donc maintenant aussi Cinderella en JavaScript. Voilà. Donc c'est un logiciel qui ressemble un peu à GeoGebra, mais qui est quand même un peu plus puissant. Qui est plus facile à programmer, et donc voilà. Donc, c'était ça la question, préciser les dispositifs. Donc si tu veux le faire vivre à Dijon, je peux te donner du matériel ou te dire quoi acheter, et puis on peut installer chez toi les logiciels, si c'est ça que tu veux dire, bien sûr. Tant que j'y suis sur les fonctions, donc il y a une autre expérience, un autre dispositif que nous utilisons, qui est donc celui-ci, qui utilise la webcam pour faire des déformations conformes. Okay. Donc, qui utilise la webcam conforme. Et où là aussi, on utilise l'image des personnes, et donc pour les impliquer. Donc ça fait des jolies images, c'est des images étonnantes, des jolies des fois non, ça permet de toucher du doigt un aspect des fonctions qui n'est vu que en licence, voire en master de mathématiques. Alors que bon, c'est quand même pas si compliqué que ça, les fonctions holomorphes. Donc ce qu'on voit, c'est toujours la fine tranche des réels, des fonctions réelles à valeur réelle, alors que c'est vraiment, enfin c'est plus compliqué que des fonctions du plan, qui a un point du plan, associé à un point du plan, c'est-à-dire un point du plan, on peut dessiner dans le plan, on peut dessiner les gens, et donc ça permet d'avoir des mathématiques qui parlent. Qui nous concerne, vu que c'est notre image à nous qui est déformée. Et ça, c'est aussi quelque chose que j'utilise depuis assez longtemps, de déformer, d'impliquer les gens en impliquant leur image, voilà, en déformant leur image. Donc, j'ai différentes webcams, ici c'est la webcam conforme, autour des fonctions, ici des fonctions complexes, dans le cadre de la diffusion des mathématiques, c'est-à-dire hors classe, hein, parce que ça, j'ai bien dit, hein, c'était vraiment hors classe, pour ce qui concerne les fonctions conformes, eh bien, permet de donner à voir des fonctions assez intéressantes.
Bon. Ah oui, c'est ça. Bonjour. Je ne sais pas. Apparemment. Ok. Donc, je ne sais pas si vous me recevez, Christian. Moi, j'aimerais qu'on revienne un peu sur la première partie, disons principalement les perceptions des enseignants de mathématiques de les écoles d'ingénieurs. J'aimerais qu'on dise un mot sur comment ces perceptions, les résultats de cette étude-là, peut contribuer à améliorer l'image de mathématiques. Je ne sais pas si vous me recevez. C'est Moru de l'IRM de Niamey.
Merci beaucoup. Excusez-moi, j'ai coupé l'herbe sous le pied à quelqu'un qui avait levé le doigt. Je suis désolé. Oui, merci. On vous a bien entendu. Je ne comptais pas du tout parler de ça, mais effectivement, c'est quelque chose qui est intéressant. Je conduis un autre projet qui est un projet d'étude des conceptions. Attendez, je vais rouvrir la chose. Paf, je vais rouvrir le la présentation parce que j'avais fermé bêtement. C'est un projet sur l'étude, une étude comparative de l'enseignement des mathématiques pour les élèves ingénieurs. Et dans ce cadre-là, en particulier les aspects culturels de l'enseignement des mathématiques. Ah, désolé, j'ai été interrompu. Oui, donc c'était dans le cadre des l'enseignement des mathématiques pour les élèves ingénieurs. Donc ça, c'était autre chose. Est-ce qu'il y avait quelque chose qui apparaît ça? Voilà, c'était ici. D'accord. C'était MetaMath bien. C'était. Attendez, je vais peut-être retrouver. Ouais, enfin bon, c'est quand même vraiment autre chose. Je pense qu'on s'éloigne du sujet des fonctions hors la classe. Merci pour la question, mais je pense que je vais revenir vers vous pour en parler, parce que c'est vrai qu'il y avait quand même un léger contact avec cet exposé-là, qui est que en Occident, si vous voulez, en Europe, eh bien, nous avons pour les élèves ingénieurs une vision assez performative des mathématiques. Les mathématiques sont un outil pour appréhender le réel et ça marche pas mal. Les conceptions sont quand même pas mal comme ça. Tandis que quand on regarde en Russie ou en Géorgie ou en Arménie, qui sont les partenaires dans lesquels j'avais fait ce projet, eh bien, la vision des mathématiques, c'est une vision bourbakiste, si vous voulez, avec les mathématiques sont avant tout des abstractions et les mathématiques servent à prouver des théorèmes qui servent en gros à rien, quoi, simplement à l'honneur de l'esprit humain. Voilà, une vision beaucoup plus pure des mathématiques dans les conceptions des étudiants. Mais bon, rien de précisément sur les fonctions elles-mêmes. Okay, voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question, même si c'est un peu à côté. Voilà. Ok, ben donc si on en a fini pour les questions, eh bien je vous remercie tous beaucoup d'avoir été parmi nous pour cette première session du séminaire IREM international. Si vous avez des questions, des propositions de séminaire, ce serait vraiment très intéressant. N'hésitez pas. C'est ouvert à tous. Voilà, on peut en discuter. Techniquement, on peut voir comment faire pour que ça se passe sans trop d'encombre. J'espère que vous avez été techniquement pas trop déçu par ce qu'on a fait ensemble. Voilà. Et que le sujet, au point de vue du contenu, vous a été. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Et on pourra retrouver cet enregistrement en ligne. Je vais le faire circuler dans le réseau des IREM. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir. Okay.